Bonjour et bienvenue sur Meilleur Allié, le podcast qui vous aide à cultiver la relation la plus importante de votre vie, votre relation avec vous-même. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de perfectionnisme et surtout de comment s'en détacher. Alors, vous savez sans doute déjà de quoi il s'agit quand je parle de perfectionnisme. C'est cette quête qui consiste à vouloir faire toujours plus et mieux pour être à la hauteur de ce que l'on souhaite réaliser et de ce que l'on attend de nous. C'est un mécanisme qui nous incite à aller scruter la moindre erreur ou insuffisance dès qu'on se propose de faire quelque chose. Et le problème, c'est que le perfectionnisme a tendance à nous causer de l'anxiété et à nous faire souffrir d'une grande exigence envers nous-mêmes. Ce qui, au lieu de nous tirer vers le haut, nous mine le moral et a tendance à nous fatiguer, voire nous immobiliser. C'est un ennemi qui peut être difficile à vivre, car source d'auto-dévalorisation, c'est-à-dire qu'on peut avoir la pensée « bon, ce que je fais n'est pas jamais assez bien, j'aurais pu ou j'aurais dû faire mieux », et donc on n'est jamais réellement satisfait de ce que l'on fait. C'est aussi une source de procrastination et de découragement quand on se dit que la montagne de perfection à atteindre est tellement grosse que l'on ne sait même pas par où commencer ou savoir quand on peut, ça y est, enfin s'arrêter. Et c'est une source de stress et d'épuisement parce que le perfectionnisme a ce pouvoir de nous faire passer des heures à rallonge sur certaines tâches. Et évidemment, on fait ça pour atteindre la perfection qui, comme vous le savez déjà, n'existe pas. Donc en fait, on s'épuise sans jamais être satisfait. J'ai choisi ce sujet car le perfectionnisme est un compagnon que je connais bien pour l'avoir souvent trimballé à mes côtés. Alors je n'en suis pas complètement débarrassée, je ne sais même pas vraiment si c'est possible, mais je peux dire que notre relation entre mon perfectionnisme et moi-même est maintenant beaucoup plus sereine. J'y ai beaucoup réfléchi et je me suis même fait accompagner sur le sujet il y a quelques temps, par une psy et par une coach, et j'ai trouvé mes propres outils pour y faire face. Donc voilà, je me suis dit que ça pourrait en aider d'autres. Si vous avez choisi d'écouter cet épisode, j'imagine que vous savez déjà ce qu'est le perfectionnisme, notamment parce que vous en avez probablement déjà fait l'expérience. Alors j'ai évoqué déjà les conséquences négatives du perfectionnisme, anxiété, fatigue, stress, procrastination, dévalorisation. Et globalement, on peut dire que c'est quelque chose que l'on n'a pas envie d'avoir. Voilà, c'est un ami qu'on ne veut pas avoir comme compagnon de route. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le terme d'artillerie pour le titre de ce podcast, puisque ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, ce sont mes outils, mes armes, pour vous aider à vous en défaire. Mais avant ça, je voudrais quand même prendre un temps pour remettre à plat ce qu'est le perfectionnisme, et vous dire dans quel cas ça peut être intéressant quand même de le côtoyer. Et pour ça, il va aussi falloir comprendre comment le perfectionnisme fonctionne et comment il est alimenté. Je vous partage cette réflexion de Brené Brown. Brené Brown, c'est une chercheuse américaine qui a réalisé un travail passionnant sur la honte et sur les ressentis désagréables associés. Donc ça veut dire qu'elle a passé un certain temps quand même à observer et à comprendre comment fonctionnait la honte et à interroger des personnes qui avaient peur de vivre de la honte. Et son but, c'était notamment de découvrir ce que les personnes qui vivent pleinement ont en commun. Elle parle des personnes qui vivent sans réserve. Et elle explique que le perfectionnisme, c'est un système qui se nourrit de la pensée suivante. Si j'ai une apparence parfaite, que je vis parfaitement, et que je fais tout parfaitement, alors je peux éviter ou du moins minimiser les sentiments douloureux de la honte, du jugement et du blâme. Donc en apparence, le perfectionnisme nous aide à nous protéger de la douleur que l'on pourrait ressentir si on se montrait imparfait. Parce que nous sommes d'accord que la honte, le jugement et le blâme, ce sont des choses que l'on déteste généralement ressentir et qu'on va vraiment s'employer à éviter. Donc en fait, le perfectionnisme, c'est d'abord un mécanisme de protection qui vous veut du bien. En fait, il veut éviter que vous viviez des choses super désagréables. Donc sur le papier, c'est un bouclier qui est vraiment génial et bien intentionné, on va dire. Parce qu'en fait, la honte, le jugement et le blâme, c'est un risque très très important pour nous, les humains, qui avons en commun la peur d'être rejetés. Le rejet, pour nous, c'est comme la mort sociale. C'est d'ailleurs un des plus grands risques pour nous, les humains, qui avons appris à survivre en vivant en société. Donc, si on survit en société et que la société nous rejette, alors il nous reste plus que la mort. En gros, c'est un peu ça schématiquement. Donc, ce qu'elle dit, c'est que plus je vais entretenir la perfection, et plus je m'assure d'être acceptée par les autres, et donc de survivre. Voilà, on en est à ce niveau-là d'enjeu. Il y a deux problèmes avec cette pensée. Déjà, c'est que la perfection n'existe pas. Donc, si on croit que le succès de nos projets tient forcément à l'absence de honte, de jugement et de blâme, et que la seule clé qui mène à ça, c'est la perfection, alors nos projets n'ont strictement aucune chance de voir le jour ou de connaître le succès. Et en fait, on risque aussi de prendre aucun plaisir sur le chemin qui nous mène vers la réussite. Le deuxième problème avec cette pensée, c'est que si on croit que la perfection permet d'éviter la honte, le jugement et le blâme, alors on peut croire que l'imperfection est synonyme de honte, de jugement et de blâme. Or là aussi, c'est pas tout à fait le cas. Je vais vous prendre un exemple pour illustrer un peu ça et parler un peu plus concret. Par exemple, si vous organisez un dîner avec des amis et que vous aviez prévu un dessert fait maison parce que vous aimez cuisiner et que vos proches vous disent toujours que vous cuisinez super bien, mais voilà, 30 minutes avant l'arrivée de vos amis, vous vous rendez compte que le gâteau est cramé et qu'il est complètement immangeable. Du coup, vous avez une belle entrée, un bon plat, la table est bien dressée, le salon, la maison est rangée, mais votre dessert, voilà, c'est des yaourts nature, parce que vous n'avez plus que ça à leur proposer. Donc soit vous vous dites que vous allez annuler le repas, parce que vous avez complètement honte, et vous vous dites que ça vaut plus du tout le coup de les inviter, enfin quand même, on va pas préparer tout un beau repas pour même pas avoir un dessert digne de ce nom à leur servir. Autre option, vous vous dites que vos amis vont quand même venir, voilà, on va pas annuler quand même pour ça, mais vous passez tout le repas à vous demander comment ils vont pouvoir réagir en voyant que votre dessert c'est des yaourts nature et pas un bon gâteau. Et puis vous passez votre temps à vous excuser parce que bah voilà, vous êtes désolé et puis c'est quand même embêtant cette histoire de four, et puis bah voilà, vous avez pas fait attention, mais qu'est-ce que vous êtes bête, c'est quand même pas malin, etc. Et puis en fait, vous passez votre repas à penser à ça et votre attention est complètement détourné de ce qui se passe pendant le repas, des discussions. Vous oubliez même de profiter de la présence de vos amis. L'autre option, c'est que vous vous dites peut-être que bah voilà, ce dessert, ok, il est raté, mais apparemment, ça ne changera rien à votre amitié, parce que vos amis, en fait, ils sont avant tout venus pour passer du temps avec vous et passer un bon moment. Ils ne sont pas venus pour manger parce que vous leur aviez promis un excellent dîner dont ils se souviendront à jamais tellement il était divin. De voir ça comme ça, de vous dire « bon bah ok, c'est pas grave, le dessert est ce qu'il est », ça va peut-être même soulager le perfectionnisme de vos amis, parce qu'ils se diront que si même une cuisinière ou un cuisinier comme vous peut parfois rater un dessert, alors bah voilà, ça allège la pression quand eux vous inviteront à dîner chez eux. Et puis peut-être même que vous en rigolerez plus tard, vous la grande cuisinière qui un jour, ou le grand cuisinier, qui un jour a servi des yaourts nature. Ce qu'explique Brené Brown aussi, c'est que parfois, l'imperfection peut aussi amener beaucoup de choses positives, comme de la connexion aux autres, comme de la vulnérabilité qui va vous permettre d'être en lien avec les autres et de vous montrer authentiquement comme vous êtes en retirant le masque du perfectionnisme. Donc, je vous laisserai lire son livre pour en apprendre plus sur ces points en particulier. Je vous mettrai le titre en barre de description. Mais ça me semblait voilà, important de vous le dire. Alors après, la réflexion que je me fais aussi, c'est que finalement, est-ce qu'il n'est pas plus intéressant de réfléchir à la manière dont on peut mieux vivre la honte, le jugement et le blâme, si jamais ils surviennent ? Comment est-ce qu'on vit avec ça ? Plutôt que de se poser la question « comment je peux atteindre la perfection alors que je sais très bien qu'elle n'existe pas ?» Donc si jamais vous vous retrouvez un jour dans cette situation, de vous dire « non mais... comment je fais ? Enfin, là, je serai jamais à la hauteur. Comment est-ce que je peux atteindre un idéal pour enfin pouvoir être accepté et pas être rejeté, surtout ? Posez-vous peut-être plus la question, quel est le niveau de risque, de honte, de blâme et de jugement que je suis prête à accepter ou prêt à accepter Et comment est-ce que je vais faire pour le traverser de la manière la plus sereine possible, en étant le moins dans le jugement de moi-même et dans la dévalorisation de moi-même? Le perfectionnisme est vraiment lié à l'émotion de la peur. Donc je vous le disais, c'est la peur d'être rejeté. C'est le raccourci entre les deux pensées suivantes. C'est si je ne fais pas quelque chose de parfait, alors ce que je fais n'a pas de valeur. Et si ce n'a pas de valeur aux yeux des autres, je risque d'être rejeté, et ça, c'est profondément terrible. Donc c'est tout cet enchaînement de pensées qui est à venir déconstruire, retravailler, et c'est de casser en fait le lien de causalité entre si ce que je fais n'est pas parfait, alors ça n'a pas de valeur. Si je rate mon dessert, alors toute cette soirée avec mes amis est gâchée. Et la pensée, si ça n'a pas de valeur aux yeux des autres, je risque d'être rejeté. Autrement dit, si mon dessert est dégueulasse, je risque d'être rejeté par mes amis. Prenez une situation peut-être dans laquelle vous ressentez du perfectionnisme et essayez d'aller voir si cet enchaînement de pensées, vous arrivez à le retrouver. Peut-être que vous vous dites que cette chose que vous êtes en train de faire, si elle n'est pas parfaite, alors elle n'a aucune valeur. Et ça, du coup, vous pouvez le questionner pour savoir à partir de quand cette chose que vous faites a suffisamment de valeur pour être partagée, pour être terminée, pour être montrée à d'autres personnes, en tout cas pour avoir le mérite d'exister. Si vous pensez que effectivement ce que vous faites a de la valeur, mais que elle n'est pas suffisamment vue par les autres et que c'est ça qui va vous faire être rejeté, là aussi, vous pouvez aller travailler sur cette pensée en vous posant la question suivante. Quel est le degré de jugement, de honte et de blâme que vous êtes prêt à prendre le risque de vivre pour donner la possibilité à votre projet d'exister? Alors, à ce stade, il y a une distinction aussi qui me paraît importante à faire. Éviter le perfectionnisme, ça ne signifie pas devenir paresseux, devenir négligé, se laisser aller et arrêter de vouloir progresser et se dépasser. D'ailleurs, Brené Brown distingue le perfectionnisme et l'effort sain. Le premier est plutôt néfaste car c'est la recherche de valeur qui est conditionnée en fait à l'approbation des autres. C'est quand on croit que la qualité de ce qu'on fait conditionne notre valeur en tant que personne. Et le second, l'effort sain, peut nous épanouir, car lui est dirigé uniquement vers soi. C'est-à-dire qu'on s'efforce de devenir meilleur selon nos propres critères internes, parce que c'est bon pour nous, que ça nourrit nos valeurs, que ça nous stimule, et que ça vient renforcer en fait nos besoins personnels. La distinction se trouve surtout dans pour qui vous le faites ? À qui cherchez-vous à plaire ? Est-ce que c'est à vous-même ou est-ce que c'est aux autres ? Si c'est tourné vers vous-même, alors c'est de l'effort qui est plutôt sain. Et dans ce cas, ça peut être une bonne chose de continuer dans cette direction. Voilà, maintenant j'ai planté un peu le décor autour du perfectionnisme. Et donc j'aimerais maintenant prendre un exemple un peu fil rouge pour pouvoir vous donner aussi quelques outils pour vous distancer du perfectionnisme. Et en tout cas, moi, c'est des outils que j'utilise. Donc voilà, je vous les partage. Donc cet exemple concret de perfectionnisme, c'est le suivant. On va imaginer que vous êtes un entrepreneur ou une entrepreneuse et que ce matin, vous avez décidé de travailler sur deux choses. D'abord, la création de vos cartes de visite et ensuite la rédaction d'un mail de prospection pour un client. Et comme vous êtes une personne organisée, vous avez prévu de passer 1h30 sur vos cartes de visite et une heure sur ce fameux mail de prospection. Et donc là, si vous êtes comme moi il y a quelques années, au moment de vous fixer l'objectif pour commencer vos cartes de visite, vous allez peut-être vous dire, mon objectif là, c'est de créer des cartes de visite qui soient des belles cartes de visite qui vont donner envie aux autres de recourir à mes services. Et donc en fait, là, cet objectif est subjectif. C'est-à-dire que c'est un objectif qui se base sur votre ressenti ou votre satisfaction personnelle, subjective, et surtout qui n'est pas observable par des faits. C'est-à-dire que, vous ne saurez jamais dire si votre carte de visite donnera envie de recourir à vos services. parce qu'en fait vous n'êtes pas dans la tête des autres, vous n'êtes pas voyant ou voyante, et puis en fait ça ne dit rien de vos cartes de visite, ça parle juste de est-ce que les autres auront envie de recourir à vos services grâce peut-être à ces cartes de visite. Donc en fait c'est un objectif qui a priori est un nid à perfectionnisme, parce que c'est un nid aussi à interprétation, à hypothèse et en fait à appréhension du jugement des autres. Moi, ce que je vous propose, c'est plutôt d'identifier des objectifs objectifs. Et là, je vais vous parler d'un outil que vous connaissez peut-être, et même il y a de fortes chances que vous le connaissiez. Donc j'attire votre attention sur un point, c'est qu'il y a une grande différence entre connaître un outil et le mettre en pratique. Parce que moi, c'est un outil que j'avais beaucoup entendu, que ce soit dans mes études ou dans des précédentes expériences professionnelles, mais je ne l'avais pas vraiment compris au point de le mettre en place. Donc en fait, cet outil, c'est simplement de se fixer des objectifs objectifs, c'est-à-dire des objectifs qui soient SMART, S-M-A-R-T. Donc S, c'est spécifique, M, mesurable, A, atteignable, R, réaliste et T, temporel, donc inscrit dans une temporalité. Et là, ce que je peux vous proposer comme objectif, plutôt pour vos cartes de visite, ça va être de vous dire, ok, dans 1h30, j'aurai réalisé des cartes de visite qui contiennent mes coordonnées et une photo de moi que j'ai choisie et qui fait partie de ma bibliothèque, admettons, de photos de moi. Mes cartes de visite doivent aussi indiquer de manière synthétique mon activité et mes services. Elles sont mises en page selon les critères de ma charte graphique. Et puis, d'ici 1h30, je les aurai commandées en X exemplaires pour X euros maximum et pour une livraison d'ici telle date. Voilà, donc là on est sur quelque chose de beaucoup plus factuel. Et il y a beaucoup plus de chances que vous puissiez en fait cocher les cases de ces critères que vous êtes fixés, ces critères de réussite, et de vous permettre ensuite d'avancer. Parce que si vous fixez l'objectif des cartes de visite belles qui donnent envie, en fait, vous ne saurez jamais si elles sont suffisamment belles ou si elles donnent suffisamment envie. En revanche, vous saurez dire si elles contiennent suffisamment vos coordonnées ou elles expliquent suffisamment synthétiquement votre activité ou vos services. Et puis vous saurez rapidement établir si oui ou non c'est conforme à votre charte graphique et si oui ou non c'est bien tel exemplaire, tel nombre d'exemplaires, tel nombre d'euros pour telle date. Donc ça c'est la première chose dont je voulais vous parler, c'est se fixer des objectifs objectifs. Alors on va rester sur l'exemple des cartes de visite, voilà, vous êtes entrepreneur, vous avez décidé de vous lancer dans ces cartes de visite, et puis vous êtes en train de commencer, etc. Et puis après 1 heure de travail sur vos cartes, en fait vous pouvez objectivement constater que votre objectif objectif est sur le point d'être atteint. Et en fait, c'est là qu'intervient aussi un autre outil que je voulais vous partager. Celui-ci, je l'ai pioché chez Clotilde Dussoulier du podcast Change ma vie. Alors, je ne suis pas du tout capable de retrouver d'où je le sors exactement, mais cet outil, c'est le 14 sur 20. Et en fait, ce que j'ai retenu de l'explication de cet outil, c'est qu'en fait, les personnes qui sont atteintes, on va dire, de perfectionnisme, même si ce n'est pas une maladie, ont tendance à viser le 20 sur 20, voire le 21, 22 sur 20, pour s'autoriser à aller au bout de la chose, et en tout cas, si c'est les cartes de visite, en gros, je m'autorise à les lancer en impression seulement quand j'estime qu'elles sont à 22 sur 20. Cet outil du 14 sur 20, c'est plutôt un ressenti interne de se dire, voilà, est-ce que là, j'estime que mon niveau de satisfaction, il équivaut à 14 sur 20 ? Parce que 14 sur 20, c'est quand même relativement une bonne note, c'est quelque chose de suffisant, on passe la moyenne et a priori, c'est quand même une bonne note. Et donc, c'est de vous dire, voilà, est-ce que là, j'ai atteint le 14 sur 20 ? Est-ce que je considère que c'est suffisant pour que mon objectif, je le considère atteint et que j'en sois satisfaite ? Ou satisfaite ? Et donc là, quand vous êtes dans vos cartes de visite et que vous êtes sur le point de terminer, vous pouvez vous poser la question. Bon bah voilà, là si je devais donner une note comme ça, est-ce que je considère que j'ai atteint ou même dépassé le 14 sur 20 ? Donc, c'est pas tout à fait objectif, et ça va presque contredire le point d'avant où je disais de se fixer des objectifs objectifs, mais il arrive parfois qu'on ait besoin quand même de se fier à sa satisfaction interne par rapport à quelque chose, même si on coche toutes les cases objectives. Et donc, notamment pour des décisions qui nécessitent pas d'être parfaitement menées, parfaitement réalisées avec un très très haut niveau d'exigence, parce que ce sont des décisions primordiales, sur lesquelles vous affectez un haut niveau d'importance, là, vous pouvez vous dire, ok, bon bah ça c'est une décision que je peux faire à 14 sur 20, voilà, ça va pas changer la face du monde, que ce soit à 14, 15 ou 12 sur 20, mais voilà, je vise le 14, et donc à partir de 14 sur 20, je considère que la tâche est terminée. Donc voilà, ça c'est une petite astuce que je vous donne, enfin que je vous repartage plutôt, parce que pour moi elle est très très utile et je me demande très régulièrement, bon bah est-ce que c'est suffisant, est-ce que j'atteins bien le 14 sur 20, oui, ok, bon bah c'est parti, je passe à autre chose. Ce qui peut se passer, même si vous avez atteint vos objectifs objectifs, que vous vous dites que oui, 14 sur 20 c'est atteint, là il peut se passer encore autre chose parce que le perfectionnisme est toujours dans un coin et a plein de stratégies un peu pour revenir à la charge. Vous vous rendez compte, vous vous dites que cette charte graphique, voilà, elle est à revoir. L'harmonie des couleurs pourrait être plus harmonieuse, la police d'écriture pourrait être plus impactante, et puis vous commencez à chercher des nouvelles palettes de couleurs, de nouvelles polices d'écriture, à chercher d'autres exemples de cartes de visite sur Internet. Et là, c'est la machine du perfectionnisme qui s'emballe, et vous commencez à déborder sur l'heure et demie que vous vous étiez fixé. Et en fait, c'est très précisément dans ce type de moment qu'il est très utile de savoir faire un pas de côté, de prendre quelques secondes pour se connecter à vos ressentis, à vous-même, et d'observer ce qui est en train de se passer à l'intérieur de vous, au niveau de vos pensées et au niveau de vos émotions. Et là, il peut se passer plusieurs choses. Donc, option 1, vous pouvez ressentir du plaisir, de l'enthousiasme, de l'excitation, de la stimulation. En fait, une sensation qui est plutôt agréable et joyeuse, parce que vous vous dites peut-être que ah bah ça y est, vous créez enfin vos cartes de visite, c'est vraiment le signe que vous avez osé vous lancer, vous êtes vraiment fier de vous, ça faisait longtemps que vous attendiez ce moment, et puis ça vous fait plaisir de passer du temps sur ces cartes de visite, c'est peut-être la première fois que vous en faites, et puis bah voilà, vous aimez cette sensation d'apprendre, de développer quelque chose de nouveau. Alors vous regardez d'autres cartes de visite pour chercher de l'inspiration et des formats que vous n'aviez pas encore imaginés. Ça vous donne vraiment des idées. Et puis ça nourrit votre créativité et peut-être votre soif d'apprentissage, de stimulation, de nouveauté. Bref, c'est un élan de plaisir et de satisfaction qui est en train de vous guider. Et là, le perfectionnisme vous permet de prolonger et de satisfaire ces besoins importants pour vous d'apprentissage et de créativité. En fait, c'est un perfectionnisme qui ne vous est pas néfaste. C'est un effort sain, tourné vers vous-même, et ça, on en a parlé un petit peu plus tôt dans l'épisode. Ce que vous pouvez faire dans ce moment-là, parce qu'on est quand même parfois à se laisser déborder par le perfectionnisme et par l'effort, même si on y prend du plaisir, et là, mon astuce pour moi, c'est vraiment de se mettre une échéance, et même de s'offrir, c'est comme ça que je le vois, un créneau de perfectionnisme. C'est de se dire, voilà, là, Marie, t'es en train de kiffer, refaire tes cartes de visite 50 000 fois, à ajuster les couleurs, à réfléchir comment tu pourrais les améliorer, etc. Et en fait, je remarque que j'aime bien faire ça. Et donc là, je peux me fixer un créneau de full perfectionnisme pendant 30 minutes. Mais concrètement, je me définis une heure de fin. Et donc, là, bien sûr, la condition, c'est d'être capable de se prendre en flagrant délit de perfectionnisme. Et pour ça, il faut être capable de faire un pas de côté et de se connecter à soi et ses ressentis pour avoir conscience, en fait, qu'on est en train de faire du perfectionnisme parce qu'on a largement dépassé nos objectifs et que le 14 sur 20, lui aussi, a été largement atteint. Mais c'est OK, vous pouvez vous donner du temps, mais en même temps, vous permettre de passer ensuite à autre chose. Deuxième option, quand vous êtes en train de revoir votre charte graphique pour améliorer vos cartes de visite, pour les peaufiner, là vous ressentez de l'anxiété, de l'agitation, des doutes. Vous vous dites que ces cartes de visite sont vraiment très très importantes, qu'elles doivent absolument refléter votre professionnalisme. Alors vous ne voulez pas caser l'air ridicule, vous vérifiez 10 fois qu'il n'y a aucune coquille, que vous imaginez tendre cette carte de visite à un potentiel client et vous imaginez ce qu'il pourrait en penser. Vous voulez qu'il pense que vos services sont de qualité, que vous êtes une personne qu'il aura envie de rappeler. Alors vous cherchez des cartes de visite dans votre portefeuille ou sur internet pour voir ce qu'ont fait les autres. Vous vous dites que la vôtre, finalement, elle fait un peu tache à côté, que ce n'est pas du même niveau, et pour ça qu'il faudrait revoir les couleurs, la police, la mise en page. Alors dans ce cas de figure, votre perfectionnisme est alimenté par la peur du jugement. La peur du regard des autres, la peur que ce jugement et ce regard puissent endommager finalement votre projet en vous menant à un rejet. Ça aussi, c'est important d'en avoir conscience, et c'est pour ça que je vous invite vraiment à vous connecter à vous-même pour savoir si l'élan en fait que vous êtes en train de suivre, c'est un élan de plaisir ou un élan de peur. L'option numéro 3, c'est que peut-être que vous ressentez du calme ou de la sécurité, une sensation de confort pendant que vous êtes en train de peaufiner vos cartes de visite. Pas spécialement de plaisir, mais juste, voilà, vous savez le faire, c'est agréable, c'est quelque chose que vous maîtrisez. Peut-être que vous vous sentez à l'aise dans la création et le graphisme parce que c'est votre métier ou que c'est une compétence que vous maîtrisez déjà, pour laquelle vous êtes déjà reconnu, et que dans un coin de votre tête, en fait, c'est surtout l'autre tâche, celle que vous aviez prévue après les cartes de visite. Vous savez, là, écrire un mail de prospection. En fait, c'est peut-être ça qui est nouveau pour vous et que, en fait, vous ne savez pas encore comment vous allez vous y prendre. Et donc, comme vous n'êtes pas à l'aise avec cette démarche de prospection, et en cherchant vraiment à peaufiner ces cartes, le perfectionnisme vous aide à vous maintenir dans cet espace de confort et de sécurité que vous maîtrisez, plutôt que de vous projeter dans cette étape de prospection où vous avez peut-être moins de contrôle et dans laquelle vous vous sentez moins à l'aise. Donc en fait, le perfectionnisme va vous permettre de procrastiner sur autre chose, même si cette autre chose vous semble importante. Donc en fait, c'est vraiment de vous maintenir dans des sensations agréables qui vous permet de repousser des sensations inconfortables estimées par quelque chose de futur. Dans le premier épisode du podcast sur les piliers de la relation à soi, je vous parlais de l'importance de la connexion à soi. Et ici, c'est exactement de ça dont vous avez besoin. C'est de vous plonger à l'intérieur de vous et de voir ce qui se passe. Quand je perfectionne, qu'est-ce qui me guide ? Quel est mon moteur ? Quelle est l'émotion qui est présente ? Puis vers qui est tourné mon perfectionnisme ? Vers moi ? Vers les autres ? De quoi est-ce que je me protège ? Et puis finalement, c'est quoi le jugement précis que vous cherchez à éviter ? Un manque de professionnalisme, une incapacité à faire des jolies cartes, ou simplement le fait d'être entrepreneur. Voilà, il y a peut-être différentes choses que vous cherchez à éviter en termes de jugement. Et vous pouvez aussi vous poser la question, en quoi ce perfectionnisme-là, il essaye de me rendre service ? De quoi il se fait le bouclier ? Et ce questionnement-là, il n'est vraiment pas anodin, parce qu'il va vous permettre de reprendre le contrôle. Il va vous permettre de regarder les choses en face au lieu de vous laisser absorber par la spirale chronophage du perfectionnisme. Et à ce moment-là, c'est vraiment essentiel de vous appuyer sur un autre pilier dont je vous avais parlé, qui est de se traiter en ami, c'est-à-dire de ne pas juger ce que l'on observe et se parler avec respect et gentillesse. Si vous constatez que c'est la peur du rejet qui s'installe quand vous êtes perfectionniste, au lieu de vous dévaloriser et de vous trouver peureuse, pas à la hauteur, nulle, utilisez plutôt votre énergie à accepter cette peur en vous qui est là et qui est légitime, puis de trouver des manières de vous rassurer. Et en faisant cela, vous vous donnez la possibilité de choisir ensuite un moteur qui sera plus porteur pour vous, un carburant plus propice en fait à votre succès, afin de terminer ces fameuses cartes de visite. Peut-être que ce sera la fierté de vous lancer dans une nouvelle activité et de le symboliser dans cette carte de visite. Peut-être que ce sera le plaisir de créer un support de communication qui vous ressemble. Ou la curiosité d'imaginer les opportunités qui vont naître des rencontres que vous ferez en tendant votre carte de visite. Voilà, vous pourrez choisir de vous connecter à un moteur plus intéressant pour vous et plus constructif. Mais ça, vous pourrez le faire seulement si vous prenez conscience de votre moteur actuel. On arrive à la fin du podcast. Je voulais aussi partager une autre astuce qui m'est venue en faisant ce podcast. Parfois, on a envie de viser vraiment haut parce qu'on pense que c'est ça qui va avoir de la valeur. Par exemple, je me suis dit « Oh là là, mais j'ai tellement de choses à dire sur le perfectionnisme, je vais jamais pouvoir tenir en un épisode qui dure moins de 30 minutes. » Je commençais presque à avoir des pensées perfectionnistes sur ce podcast de perfectionnisme. Et là, je me suis rappelée d'une chose, et donc je vous invite aussi à prendre cet outil-là s'il vous parle, c'est de me rappeler la promesse que je fais quand je fais ce que je fais. C'est-à-dire que quand je réalise ce podcast, ma promesse n'est pas « je vais vous partager un podcast de 20 minutes qui va réunir tout ce qui a jamais été écrit sur le perfectionnisme et toutes mes lectures et toutes mes réflexions sur le sujet », parce que comme ça, ce sera un épisode parfait de podcast exemplaire sur le perfectionnisme. Voilà, en fait, c'est pas ça que je vous ai promis. Moi, ce que j'ai envie de promettre, c'est que dans cet épisode de podcast, je parle de mon propre rapport au perfectionnisme, des outils que j'ai trouvés et des lectures qui peuvent m'avoir inspirée sur le chemin. Et ça ne veut pas dire que je ne ferai pas un autre épisode par la suite sur le perfectionnisme. Et surtout, je suis tout à fait OK avec le fait que ça puisse ne pas être parfait, puisque je sais que la perfection n'existe pas. Donc, ce que vous pouvez en tirer, c'est de vous poser la question, quelle est la promesse que vous faites quand vous vous engagez sur quelque chose ? Est-ce que votre promesse, c'est d'organiser un dîner entre amis à 20h samedi prochain ? Ou est-ce que c'est d'organiser le meilleur dîner que vos amis n'aient jamais fait samedi prochain à 20h chez vous ? Est-ce que votre promesse, c'est de créer les plus belles cartes de visite du monde et qu'elles déclenchent systématiquement une vente quand vous les distribuez ? Ou est-ce que c'est simplement une carte de visite qui permet aux personnes qui ont envie de rester en contact avec vous de savoir où vous recontacter ? Et en fait, en prenant un peu de recul sur la promesse que vous faites, ça va vous permettre aussi d'alléger un peu la pression et de oser poster ce podcast, de oser terminer cette carte de visite, d'oser faire ce dîner et d'oser faire tout ce que vous rêvez de faire sans que vous ne vous l'autorisiez puisque ce n'était pas suffisamment parfait jusque-là. Voilà, donc je m'arrête ici pour aujourd'hui. Je vous ai donné plusieurs outils et questions à vous approprier pour avoir une relation plus apaisée avec la partie perfectionniste à l'intérieur de vous. Et moi, en fait, j'aime me dire que ces outils, ce sont comme un parapluie. Ils ne servent pas à dégommer le perfectionnisme une bonne fois pour toutes. C'est comme un parapluie, ça ne sert pas à supprimer la pluie pour toujours. Ça sert à s'en abriter. Donc quand il commence à pleuvoir, soit vous sentez quelques gouttes, et parfois c'est agréable, comme le perfectionnisme sain, on va dire, l'effort sain, ça peut être rafraîchissant. Mais quand vous avez besoin de vous abriter, vous pouvez choisir d'utiliser votre parapluie pour vous protéger et continuer à avancer au sec. Donc un parapluie n'empêche pas la pluie de tomber, mais c'est quand même plus rassurant d'en avoir un quand le ciel est couvert. Donc si vous êtes sujet au perfectionnisme ou sujette au perfectionnisme, voilà, j'espère que ces outils pourront vous servir de parapluie de la même manière. C'est tout pour aujourd'hui. J'aurai le plaisir de vous retrouver sur un prochain épisode très bientôt. En attendant, je vous invite à aller me suivre sur Instagram, puisque j'ai lancé le compte Instagram Meilleur Allié. Mais vous pouvez aussi me retrouver dans une newsletter pour laquelle vous pouvez vous abonner. J'ai mis le lien en barre de description. Et puis, n'hésitez pas aussi à me laisser un commentaire ou des étoiles sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Ça me fera plaisir de vous lire et de savoir si les outils que je vous partage vous aident, vous permettent d'apporter un éclairage sur votre propre relation avec vous-même. Et pour terminer, sachez que si vous avez envie qu'on travaille directement ensemble, que vous avez envie de devenir votre meilleur allié pour vous épanouir dans vos projets personnels ou professionnels, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on puisse en discuter ensemble. J'ai mis mon adresse mail dans la description de l'épisode. Je n'ai pas encore de site internet, mais ça viendra bientôt. Mais je suis déjà disponible pour parler avec vous de vos besoins et des accompagnements possibles. Voilà, n'hésitez pas. À très bientôt !